Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
En ce début de semaine sainte, la messe chrismale est célébrée selon les diocèses lundi ou mardi saint. D'où vient cette tradition de cette messe chrismale lors de laquelle les huiles saintes sont bénies et le Saint-Crème est consacré? D'où vient cette célébration au cours de laquelle les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales? Et de quelle manière la messe chrismale conduit-elle au Triduum pascal? La messe chrismale, histoire et sens spirituel, c'est la réflexion que nous vous proposons aujourd'hui dans Vivante Église. Nous sommes pour cela guidés par le père Arnaud Franc, responsable de la commission de la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Toulouse et vicaire de l'ensemble paroissial Notre-Dame d'Autun. Bonjour père.
Bonjour Isabelle et bonjour à celles et ceux qui nous écoutent.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous aider à comprendre le sens de cette messe chrismale. On va peut-être commencer par regarder l'histoire de cette messe chrismale. Quand est-ce qu'elle a été instituée et comment elle a évolué?
Alors, le tout premier document qui nous témoigne d'une messe chrismale date du 7e siècle. Donc c'est relativement tardif par rapport au tout premier siècle, et en même temps, ça témoigne d'une pratique très très ancienne, qui, comme son nom l'indique, est liée au Saint-Crème. La messe chrismale vient du mot Saint-Crème, et donc elle est rattachée à cette huile qui sert au baptême, à la chrismation, et donc qui est liée au mystère de Pâques. Voilà pourquoi aussi elle est liée à la fête de Pâques.
Et alors il y avait dans cette historique, elle a quand même varié, cette messe chrismale, puisque le jeudi saint il y avait trois messes.
Oui, effectivement, c'est bon de se dire que la messe chrismale est liée à Pâques, qu'elle a sans doute été instituée pour le mystère de Pâques, avec des raisons très pratiques. La liturgie, ça part souvent aussi de quelque chose de très pratique. Bien évidemment, ça nous conduit au spirituel, mais pour nous, les chrétiens, le spirituel s'enracine toujours dans le matériel, dans le concret, dans le réalisme.
Donc, l'incarnation.
Dans l'incarnation. La messe chrismale a été instituée pour confectionner le Saint-Crème qui servirait au baptême qui avait lieu dès les premiers siècles pendant la veillée pascale. Et la dernière messe qui avait lieu avant d'entrer dans le Triduum pascal, c'était le jeudi. Voilà pourquoi elle est traditionnellement célébrée elle a souvent été célébrée le jeudi, en même temps que d'autres messes, comme vous le disiez. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, il y avait trois messes le jeudi, avant d'entrer dans le Triduum pascal. Donc d'abord cette messe chrismale, mais aussi la messe de réconciliation des pénitents, ceux et celles qui portaient un lourd péché et qui du coup, avec la grande pédagogie de l'Église, cheminaient pendant tout le carême dans une forme de pénitence. Eh bien le jeudi saint, avant d'entrer dans le Triduum pascal, il y avait cette messe de réconciliation des pénitents, et ensuite le jeudi soir, eh bien la messe d'entrée dans le Triduum pascal avec la mémoire de la scène du Seigneur. Et donc du coup ça c'est vraiment les premiers siècles, et ensuite donc à Rome par exemple c'est toujours le cas,
oui,
c'est le jeudi matin.
Et le jeudi matin,
voilà le jeudi matin. Et puis au fur et à mesure des siècles, cette messe a effectivement évolué. On peut dire que le deuxième tournant, c'est avant le Concile Vatican II, avec Pie XII, qui lance une réforme liturgique très importante. Et c'est intéressant parce que c'est en 1951 qu'il réforme d'abord la veillée pascale, et ensuite, 4 ans plus tard, la Semaine Sainte. On dit souvent que le Concile Vatican II a été le lieu de la réforme liturgique, mais c'est intéressant de voir que ça s'enracine aussi dans des expériences anciennes. Enfin, en 51, c'était 10 ans avant le Concile.
Qu'est-ce qu'il a changé précisément, le pape Pie XII?
Ce qu'il a changé, c'est d'abord, donc la première réforme, c'est sur la veillée pascale, donc de retrouver le caractère nocturne, de retrouver le sens de la veillée avec toutes ces lectures qui ont été remise, et puis avec la centralité du mystère pascal tel que aussi quelques années après le Concile Vatican II permettra d'en retrouver l'importance, le centre de notre foi, donc le centre de notre année liturgique, c'est le mystère pascal. Et donc du coup au Concile Vatican II il va y avoir deux points d'attention, comme je l'ai dit, le mystère pascal mais aussi le mystère de l'Église comme mystère, justement, hein, un des documents, Lumen Gentium, parle du mystère de l'Église, qui part de la Sainte Trinité et puis se déploie et s'incarne dans le peuple de Dieu, au service duquel il y a les ministres ordonnés, avec du coup cette articulation du sacerdoce baptismal et du sacerdoce ministériel. Et donc la messe chrismale, qui pendant des siècles était vraiment autour de la confection du Saint-Crème, et donc du coup...
axé sur les baptisés, enfin les baptêmes
de Pâques. Axé sur les baptisés et sur le sacerdoce royal des baptisés. D'ailleurs, la préface, par exemple, tourne autour de cette consécration que nous donne ce Saint-Crème et de toute cette dignité qui découle de notre baptême. Eh bien, il va y avoir aussi cet enrichissement sur le mystère de l'Église, avec aussi les ministres ordonnés qui sont au service, justement. Et donc, du coup, il va y avoir aussi cette dimension qui va être davantage mise en valeur. Et c'est le pape Paul VI qui a voulu davantage mettre cette dimension en lumière, si bien que c'est lui qui demande à ce que, lors de la messe chrismale, les prêtres puissent renouveler leur promesse sacerdotale. Et c'est très beau parce que on le fait au milieu du peuple de Dieu, au service duquel on exerce notre ministère. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une messe chrismale qui traditionnellement était très liée au Saint-Crème et à la dignité des baptisés. Et aujourd'hui, il y a cette dimension en plus. C'est aussi le jour où l'évêque convoque son presbytérium. Généralement, la messe chrismale n'est plus le jeudi saint, parce que le jeudi, nous sommes déjà dans les préparatifs du Triduum pascal. Alors, pour nous à Toulouse, c'est le lundi. Dans d'autres diocèses de notre province, c'est le mardi. Pour deux raisons, pour permettre donc au presbytérium de se réunir autour de l'évêque.
Oui, parce que c'est, en fait, il y a la messe chrismale, mais il y a toute une journée, en fait, des prêtres autour de leur évêque.
Oui, c'est intéressant, justement, de voir que la liturgie, elle est liée à notre vie. On pourrait juste se réunir à la cathédrale pour la messe chrismale, pour bénir les huiles, consacrer le Saint-Crème, renouveler nos promesses. Non, on se rend compte que finalement la liturgie, elle nous invite à nous rassembler et qu'elle a un lien avec notre vie. Donc toute la journée, nous sommes ensemble. Et puis aussi, la messe est décalée à un autre jour, généralement le soir, pour permettre justement à tous les baptisés d'être là, puisque c'est une messe qui est liée au baptême par rapport à la chrismation.
Et vous avez parlé de ce lien entre la messe chrismale et le mystère pascal et aussi avec le mystère de l'Église. Et donc c'est justement cette présence de l'évêque avec les prêtres et aussi de tout le peuple de Dieu qui manifeste ce mystère de l'Église.
Oui, c'est le pape Jean-Paul II qui a eu cette expression à l'occasion d'un document qui marquait l'anniversaire du texte du Concile Vatican II sur la liturgie. Il disait que la liturgie était l'épiphanie de l'Église. Et d'ailleurs, les témoignages des catéchumènes, qui de plus en plus parviennent à la foi en participant aux liturgies, nous disent combien ils ont été plongés, et j'emploie ce terme à dessein parce que c'est déjà une expérience baptismale, ils sont plongés dans la liturgie et ils voient, hein, l'épiphanie, c'est une manifestation, ils voient l'Église en prière, ils voient le peuple de Dieu, ils voient les ministres au service de la prière de tout le peuple de Dieu, ils écoutent la parole, ils repèrent des signes à travers lesquels Dieu vient jusqu'à nous, dans les huiles, mais aussi les fleurs, les couleurs et tous les signes liturgiques. Et donc effectivement, et encore plus pendant le Triduum pascal qui est très riche en célébrations, et on va le voir avec aussi les huiles, on pourrait décrire ce qu'est l'Église, on pourrait partager notre expérience ecclésiale en regardant, en contemplant toutes les célébrations du Triduum Pascal. Le jeudi saint dit quelque chose du mystère de l'Église avec ce lavement des pieds. Le vendredi aussi, nous sommes au pied de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, l'Église, d'être au cœur de la souffrance et de porter toutes ces personnes dans la prière? Le samedi aussi, il faut pas l'oublier, parce qu'on est après très vite dans la veillée pascale, mais le samedi, c'est un jour de silence, oui. C'est un jour d'attente.
Il n'y a pas de messe, aucune messe n'est célébrée.
Il n'y a aucune messe, il y a la liturgie des heures, donc l'Église est toujours en prière. On goûte aussi l'absence, on goûte aussi le fait que le Christ soit au royaume des morts pour aller chercher ceux qui nous précèdent. Et puis ensuite, la veillée pascale, elle dit quelque chose des chrétiens, des noctambules. Voilà ce que nous sommes. Nous marchons dans la nuit à la lumière du Christ ressuscité. Donc, la liturgie, par ses rites, par ses paroles, par ses gestes, nous disent quelque chose de l'Église du Christ.
Mmh. Vous avez employé tout à l'heure, Père Arnaud France, ce terme de sacerdoce baptismal. On entend souvent que les baptisés, tous les chrétiens, sont prêtres, prophètes et rois. Qu'est-ce que ça veut dire, justement, dans le cadre de cette messe chrismale? Est-ce que là aussi, c'est une prise de conscience peut-être de ce ministère?
Oui, alors pour le coup, c'est intéressant d'aller justement écouter la liturgie, ce qu'elle nous dit. Au moment du rite du Saint-Crème pour le baptême, la parole qui accompagne le geste dit que nous sommes marqués de l'huile du salut et nous sommes participants, Dieu nous fait part à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Alors d'une certaine manière, on pourrait dire que le prêtre, le prophète et le roi, c'est le Christ. Et il n'y en a qu'un. Et la grâce du baptême, qui est la grâce du mystère pascal, c'est de pouvoir y participer. Dieu nous donne de participer à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Et donc, nous qui sommes marqués par ce Saint-Crème, nous qui sommes des chrétiens, puisque le mot chrétien découle du mot Christ et lié au crème, nous sommes dans le Christ et nous portons la prière du monde, nous portons toutes ces intentions. Et c'est là que s'exerce le sacerdoce baptismal, le sacerdoce royal, lorsqu'aussi les chrétiens, au nom du Christ, au nom de leur foi, servent les plus pauvres. Nous sommes le corps du Christ. Il ne faudrait pas nous voir comme des prêtres, des prophètes et des rois, ce qui du coup aussi pourrait être quelque chose de très individualiste. Oui. Non, nous sommes un corps et la liturgie nous donne justement de former ce corps, d'être replongé dans cette nature profonde. Et lorsque nous agissons, lorsque nous prions, nous le faisons toujours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Dans cette journée consacrée aux prêtres autour de leur évêque, il y a ce, vous l'avez dit par Arnaud France, ce renouvellement des promesses sacerdotales. Est-ce que c'était aussi un moyen, puisque c'est Paul VI, hein, vous l'avez dit en 1969 qu'il a instauré, est-ce que c'était aussi un moyen de garder les prêtres, de les rendre fidèles au moment où il y avait aussi des prêtres qui quittaient le sacerdoce?
Oui, tout à fait. On sait que Paul VI était très sensible à cette question et on peut relever là toute sa sensibilité et son attention, voilà. Et effectivement, il a voulu qu'on puisse renouveler nos promesses sacerdotales, et c'est pas anodin que ça soit pendant la messe chrismale, parce que c'est au moment où tout le peuple de Dieu est rassemblé. Les prêtres n'existent pas en dehors du peuple. Nous sommes ordonnés au service du peuple de Dieu. Et c'est aussi intéressant de signaler que beaucoup de diocèses ont fait le choix aussi de proposer aux diacres de renouveler leurs promesses. C'est le cas à Toulouse, c'est le cas dans d'autres diocèses. Alors, c'est pas dans le rituel, mais là aussi, on voit que la liturgie, elle est liée au discernement du peuple de Dieu et en premier chef de l'évêque. Donc, à Toulouse, il va y avoir la promesse, le renouvellement des promesses des prêtres et des diacres. C'est important de redire oui, parce que les chrétiens le font chaque année pour la veillée pascale. J'étais très touché l'année dernière, une dame est venue à la fin d'une messe en me disant « L'année prochaine, je fête mes 40 ans de baptême et j'aimerais célébrer une messe pour renouveler mon baptême. » Et donc, ben, je lui ai dit, mais figurez-vous qu'en fait, chaque année, c'est ce que la liturgie nous propose pour la veillée pascale, puisqu'il y a ce rite. Nous sommes avec les cierges allumés et nous reproclamons notre foi. Mmh. Et ensuite, celui qui préside la liturgie fait le rite de l'aspersion. Donc, nous sommes comme replongés dans notre baptême. On sait bien que les couples, ben, le jour de leur anniversaire, et puis même... d'autres occasions dans l'année ont besoin de se redire oui, eh bien, pour nous, les prêtres aussi, ça a du sens. Et ça a du sens de le faire pendant une messe où tout le peuple de Dieu du diocèse est rassemblé et aussi où tous les prêtres sont rassemblés. Parce que, effectivement, moi, par exemple, j'ai été ordonné le 29 juin avec le père Jean Harfeu. On pourrait se réunir que tous les deux, voilà, pour une messe. Mais non, en fait, on est aussi prêtres dans le corps du presbytérium, autour de l'évêque, puisque nous sommes ses collaborateurs, et tout prend sens au milieu du peuple. Donc, c'est assez beau que tous les prêtres renouvellent le même jour avec l'évêque. Et puis, comme on le verra tout à l'heure, avec aussi une implication du peuple de Dieu à ce moment-là.
Mmh. Et qu'est-ce qu'ils renouvellent précisément? Quelles sont les promesses qu'ils renouvellent précisément, les prêtres?
Notre union au Christ, comme dans la même lignée pour le baptême, hein, nous sommes un avec le Christ, eh bien, nous redisons notre désir de vivre notre existence et tout notre apostolat dans le Christ. Nous redisons notre intention de célébrer la liturgie des heures, de célébrer les sacrements, de présider la prière du peuple de Dieu, de le conduire, de l'enseigner. On repère les trois dimensions du sacerdoce ministériel: enseigner, servir, sanctifier. Et de toujours, être proche de ce peuple.
Proche de ce peuple et au service de ce peuple de Dieu.
Oui, oui. Et d'ailleurs, ce qui est bouleversant, et je venais de l'évoquer à l'instant, une fois que les promesses ont été renouvelées, de cette union intime avec Dieu, d'être les intendants des mystères de Dieu, de pouvoir suivre le Christ, serviteur de l'Église, là je cite quelques extraits de cette rénovation, eh bien, immédiatement après, l'archevêque s'adresse à l'assemblée en disant: et vous, frères et sœurs bien-aimés, priez pour vos diacres, priez pour vos prêtres, priez pour votre évêque. C'est assez touchant parce que du coup nous renouvelons nos promesses, nous redisons oui, mais ce oui, il est comme accepté, il est comme porté par l'ensemble du peuple de Dieu, et c'est lié profondément aussi à notre ordination. Le jour de notre ordination, l'une des paroles importantes, lorsque nous recevons le pain et le vin, l'évêque nous dit: recevez l'offrande du peuple saint.
Ah, oui.
Et conformez-vous toute votre vie à ce geste-là, imitez le Christ qui s'offre dans ce pain et dans ce vin. Et donc il y a une connexion intime entre l'assemblée et les ministres ordonnés. Et ça se retrouve dans la manière de renouveler nos promesses. Nous redisons oui à l'évêque, mais immédiatement l'évêque dit à l'assemblée: voilà,
priez pour
vos prêtres, parce que ils sont là pour vous.
Oui. Est-ce qu'on peut faire le lien entre le renouvellement de ces promesses sacerdotales et le fait que les prêtres concélèbrent pendant cette messe chrismale?
Oui, tout à fait. Vous avez raison de souligner cet aspect-là, qui est aussi très ancien dans l'histoire de l'Église, même si à une certaine époque, la concélébration a été un petit peu perdue, mais il y a des lieux comme par exemple à Lyon. On voit que il y a toujours eu la concélébration autour de l'évêque pour la messe chrismale et le jeudi saint. Donc c'est quand même une expérience qui s'enracine dans une tradition de l'Église. Et effectivement, ça a tout son sens parce que nous ne formons qu'un seul corps. Et puis aussi, cette concélébration, elle manifeste que c'est le Christ lui-même qui s'offre, c'est lui qui préside à nos eucharisties. Mmh. Et donc, ça n'aurait pas de sens de célébrer chacun de notre côté ce jour-là. Là aussi, on voit bien que entre liturgie et vie, il y a un lien très fort et il y a une cohérence.
Oui. Alors, je vous propose de marquer une pause et nous allons voir juste après quelles sont les huiles qui sont bénies, à quoi elles servent. Et puis, nous allons parler effectivement du Saint-Crème. Et puis, nous verrons aussi avec vous, Père Arnaud Franc, les différents textes qui sont lus pendant cette messe qui permettent d'entrer vraiment dans le sens de cette messe chrismale. Je vous propose d'écouter justement le psaume 88 qui est chanté lors de la messe chrismale. De retour avec le Père Arnaud Franc pour parler de la messe chrismale. Vous nous avez présenté son histoire, son évolution dans le temps et sa place dans la Semaine Sainte. Vous nous avez aussi présenté le renouvellement des promesses sacerdotales. Maintenant, nous allons plonger dans les textes de cette messe chrismale. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe, chapitre 61, versets 1 à 9. Nous y entendons cette phrase « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. »
Oui, il ne faudrait pas négliger cette liturgie de la parole. Là encore, le Concile Vatican II nous a permis d'en retrouver toute sa place, son importance et même sa sacramentalité. Dieu continue de nous parler lorsque nous sommes rassemblés. Et déjà, le chant d'entrée, la place de la musique est très importante, nous éveille l'oreille. Le chant d'entrée est là pour susciter la communion de toute l'assemblée, mais aussi... il est là pour nous introduire au sens du mystère que nous célébrons. Et par exemple, à Toulouse, nous avons fait ce choix de prendre peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Alors, nous allons le retrouver, cette expression, peuple de prêtres, peuple de rois, peuple assemblée des saints. Mais il ne faudrait pas s'y tromper. Ce ne sont pas les prêtres donc marqués par le sacerdoce ministériel dont il s'agit ici. Non, c'est nous tous.
C'est l'ensemble du peuple de Dieu.
Nous sommes le corps du Christ, encore une fois, et le Christ est l'unique grand prêtre médiateur par l'huile du salut, nous entrons dans ce mouvement-là. Et effectivement, la première lecture nous replonge dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, avec ce passage du chapitre 61 d'Isaïe qui nous dit effectivement que l'Esprit du Seigneur est sur celui qui est envoyé. Il m'a consacré par l'onction, donc là on repère bien que ça résonne avec l'onction, avec la chrismation. Dans la Bible, il y a plein de récits avec l'onction. Mais ce qui est intéressant avec le prophète Isaïe et ce passage-là, c'est qu'il nous donne la raison pour laquelle il nous envoie. Il nous envoie pour annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers la libération, Donc, on repère là déjà ce que les huiles vont nous apporter. La guérison, la libération, le moyen pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Mais pour l'heure, c'est une prophétie qui, bien évidemment, pour les chrétiens, trouve un accomplissement dans le Christ.
Oui.
Mais avant de passer à l'évangile, il y a le psaume responsorial.
Voilà, ce fameux psaume 88
que nous avons écouté et qui est souvent la clé de la liturgie de la parole. Pourquoi ? Parce que ce psaume nous fait méditer ce que nous venons d'entendre, mais plus que méditer, il nous fait rentrer dans son mouvement, puisque du coup, la forme responsoriale, alors on se trompe toujours un peu sur le sens, c'est pas répondre à la parole de Dieu, mais c'est de répondre au psaume, par le répond repris par l'assemblée. Et là, le répond, c'est intéressant, c'est « Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante ». Déjà, ça veut nous dire « Autrefois, tu as dit à Isaïe que tu l'avais consacré pour proclamer la libération, parce que ton amour est de toujours », mais en le chantant, ce répond, on veut dire que nous, cette assemblée, eh bien, au milieu de notre communion, il y a aussi cet amour de toujours qui est célébré. Donc c'est important que voilà, à l'embon, on entende la parole de Dieu, mais que l'assemblée puisse réagir.
Oui.
Et dans la deuxième lecture, eh bien nous sommes dans l'Apocalypse avec de nouveau cette expression, celui qui nous a délivrés de nos péchés, il fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père à lui. Là, on repère celui qui nous délivre de nos péchés, le Christ.
Le Christ.
Et donc, du coup, on repère que celui dont nous parle Isaïe, c'est le Christ.
Celui qui a été oint.
Celui qui a été oint. Et il nous marque de son onction, donc il nous la partage. Et donc, nous aussi, nous sommes des Christ, hein, les pères de l'Église disaient, nous sommes des porte-Christ, nous sommes le corps du Christ, et donc tout cela nous achemine vers l'Évangile, vers la proclamation de l'Évangile.
L'Évangile, c'est celui de Saint Luc au chapitre 4.
De Saint Luc et où Jésus est à Nazareth et on le voit justement dans une liturgie, dans la liturgie synagogale. Au moment du sabbat, et on lui remet un livre, et c'est celui du prophète Isaïe. Et là, il va relire ce que nous avions entendu dans la première lecture. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, et il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération. Et puis, Jésus referme le livre, il s'assoit, tout le monde a les yeux fixés sur lui, et là, il prononce l'homélie la plus courte et la plus percutante de l'histoire. Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Et c'est ça l'homélie. L'homélie n'est pas un commentaire de la parole de Dieu. Elle n'est pas non plus un moyen pour distiller une morale, même si l'actualisation de la parole de Dieu influence notre manière de vivre. Mais l'homélie, elle est là comme... pour être au service de la parole pour nous aujourd'hui. Et c'est en ce sens-là que cette parole de Jésus, elle est exemplaire. C'est aujourd'hui,
une parole pour aujourd'hui
que s'accomplit ce passage de l'Écriture. Voilà pourquoi, pendant toute la Semaine Sainte, de manière encore plus frappante, après la liturgie des heures, après la liturgie de la parole, pardon, des gestes vont être posés comme manifestation de la réalisation de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi tous les gestes sacramentels se font après la liturgie de la parole, comme si c'était la parole de Dieu qui du coup s'actualisait dans les êtres humains. Le mariage se fait après la liturgie de la parole. Mm-hmm. L'ordination se fait après la liturgie de la parole. Le lavement des pieds se fait après l'évangile.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Pour le Jeudi Saint, il y a cet évangile de Jésus qui lave les pieds de ses apôtres, et puis après il y a ce lavement des pieds qui est effectivement réalisé en Église.
Et pour la messe chrismale, eh bien, à partir du Concile Vatican II, il y a eu cette proposition faite que nous faisons habituellement, même s'il y a d'autres mises en œuvre. Mais c'est assez frappant de voir que le Christ nous dit aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Eh bien, juste après, il y aura donc l'homélie qui va poursuivre. La rénovation des promesses sacerdotales, comme voilà prise dans ce mystère de l'onction, mais juste après, il y aura la bénédiction, des huiles.
La bénédiction des huiles. Et donc, qui répond, qui fait écho avec cette lecture d'Isaïe, comme vous le
dites. Aucun geste liturgique n'a de sens sans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne le sens, qui forme le sens de tout geste en liturgie. Voilà pourquoi il est capital de toujours y revenir, et la liturgie elle-même nous fait prendre ce chemin-là.
Donc il y a, pendant cette messe crispale, l'occasion, c'est la bénédiction de l'huile des malades et de l'huile des catéchumènes. Donc vous nous avez expliqué pourquoi elles ont lieu juste après la liturgie de la parole. À quoi ces huiles bénies servent ?
Alors elles servent au moins pour deux ou trois choses. La première, je reviendrai un peu sur pourquoi c'est juste avant le Triduum Pascal. On l'a dit, hein, il y a une raison pratique, c'est pour qu'il y ait du Saint-Crème pour la veillée pascale. Mais d'une certaine manière, le geste de l'huile nous dit déjà quelque chose de la passion du Christ. Puisque pour faire de l'huile, il faut broyer des olives. Eh bien, c'est ce qui se passe pendant la passion. Le Christ est comme broyé.
Conduit à l'abattoir.
Il est conduit à l'abattoir, mais de cet acte se répand une odeur, non pas pestilentielle de la mort, mais l'odeur que va signifier justement le parfum aussi qui va être introduit dans l'huile. Donc déjà, cette messe chrismale nous introduit à tout le geste de la passion et de cette offrande du Christ. Et puis, on va le décliner, mais ce que je trouve important, c'est que finalement, en regardant ces trois huiles, on voit le mystère de l'Église. On l'avait déjà dit tout à l'heure.
Donc, l'attention aux malades.
L'attention aux malades. Voilà, la première huile qui va être bénite, c'est l'huile des malades. Et ça, c'est très beau quand même. Se dire, la priorité, ce sont pour ceux qui souffrent. Et pas seulement de souffrance physique. Je cite la bénédiction de l'huile des malades. Qu'elle devienne, par ta bénédiction, l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction. Pour chasser toute douleur, toute maladie, tout mal physique, moral et spirituel. Donc il faut l'envisager dans son sens le plus large. Justement, il y a une référence à Isaïe et à l'Évangile, puisqu'on se tourne vers Dieu, lui qui a voulu par son Fils guérir nos faiblesses et nos maladies. Donc on retrouve ce verbe très fort. Donc cette huile, elle va servir à l'onction des malades, pas seulement à l'extrême onction, et je pense qu'aujourd'hui de plus en plus les fidèles en sont conscients. On peut recevoir à tout âge et plusieurs fois cette huile qui non seulement manifeste la force de Dieu, mais est le canal à travers lequel Dieu passe pour venir nous guérir, et surtout
la sollicitude de l'Église, alors.
Et toute la sollicitude de l'Église, cette onction, il y a aussi quelque chose dans l'image très concrète de l'huile, quelque chose d'onctueux, onguent, oui. qui imprègne, qui a du mal à partir. On sait bien que les taches d'huile, c'est pas facile à enlever. Eh bien, voilà, tout ça, il faut le prendre en compte. Donc d'abord, c'est l'huile des malades.
C'est l'huile des malades, et qui, pendant le sacrement des malades, est mise sur les paumes des mains.
Les paumes des mains et sur le front. Avec une formule très très belle, et qui marque beaucoup de gens, et aussi, et je suis sûr que ça fera écho à nos auditeurs, qui marque non seulement la personne malade, mais aussi l'entourage qui participe. Là encore, ça nous dit que la liturgie, j'aime bien employer ce terme, la grâce qui est déployée éclabousse. Voilà, elle vient toucher le cœur du malade, mais aussi les personnes qui sont autour, et il y a plein de témoignages qui en attestent.
Qui l'en attestent. La deuxième huile, c'est l'huile des catéchumènes qui est bénie lors de la messe chrismale.
C'est l'huile des catéchumènes, et là aussi, ça nous donne une attention à toutes celles et ceux qui frappent à notre porte. Et Dieu sait, et nous aussi, que en ce moment, beaucoup de catéchumènes viennent à nous. Donc c'est aussi intéressant de voir que il y a cette prise en compte des catéchumènes. Mais cette huile n'est pas forcément toujours pratiquée dans son onction. Pourtant, elle est importante, parce que on sait bien que les catéchumènes, par la rencontre du Christ, voient leur vie complètement chamboulée, ce qui provoque beaucoup de luttes intérieures. Et bien, là encore, l'Église comme corps du Christ vient auprès d'eux pour leur dire tu n'es pas seul dans ton combat, le Christ lui-même a lutté contre le diable qui a voulu le détourner de sa mission, de son chemin. Et donc cette huile,
elle est signe de réconfort,
elle est signe de la force de Dieu. Hein. Voici le début de cette bénédiction. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Donc il y a vraiment cette expression de la force. Et puis il y a la mention des luttes de la vie chrétienne. Et pour que par cette onction, ils puissent être heureux de renaître à nouveau et vivre dans l'Église. Donc elle est très belle cette bénédiction parce que elle nous signifie que Dieu est présent dans nos luttes et que le but du chemin, c'est quand même d'être heureux et de vivre avec Dieu.
Avec Dieu, oui, oui. Autre rite, c'est celui de la consécration du Saint-Crème pendant la messe chrismale. Quelle différence entre la bénédiction des huiles et cette consécration ?
Peut-être que on peut dire que c'est le Saint-Crème qui nous consacre. Voilà pourquoi on parle de consécration du Saint-Crème. Et que l'huile des malades, l'huile des catéchumènes viennent là pour être signe d'une bénédiction de Dieu. Hein, mais le Saint-Crème nous consacre. Il fait de nous le corps du Christ. Et la prière, elle est magnifique. D'ailleurs, pour les trois prières de bénédiction et de consécration, ce sont des prières trinitaires. On s'adresse à Dieu le Père par Jésus dans l'Esprit Saint. Et c'est encore plus frappant dans la consécration du Saint-Crème, qui est magnifique. D'abord, elle commence par une invitation, justement, à toute l'assemblée, peuple de prêtres, assemblée des saints, prions tous ensemble notre Dieu. Il faudrait pas croire que c'est juste l'évêque qui consacre, mais c'est porté par la prière de tout le peuple de Dieu. Et là encore, on s'adresse à Dieu le Père et on se replonge dans l'histoire du salut, comme dans la prière d'ordination, comme dans la prière du mariage. On s'inscrit dans une histoire du salut où Dieu a déjà agi et parlé. Et donc, on va faire écho au commencement, on va faire écho à l'histoire de David, aux eaux du déluge aussi, avec la colombe, à Moïse, à Aaron, qui tout petit à petit nous amène au Christ, qui, par son onction, nous sauve du péché et du mal. Et donc, aussi, nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile qui finalement récapitule toute cette histoire du salut et qui a été dans le passé l'instrument de ta grâce. Eh bien, fais que cette huile aujourd'hui continue d'être ce qu'elle a été dans l'histoire. Canal de grâce. Donc c'est toujours impressionnant de se dire que on s'inscrit dans une histoire, mais que l'histoire continue.
Et ce Saint-Crème, donc il va servir aux trois sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordination.
Et de l'ordination, mais aussi de la consécration des autels, de la consécration des églises. L'année dernière à Toulouse, par exemple, ou il y a deux ans, je ne sais plus, il y a eu la consécration de l'église de Bordeaux-Rouge, de Saint-Sauveur. Et donc effectivement, c'est un geste qui nous consacre dans le Christ, qui nous marque de sa passion. Et là encore, la messe chrismale est un beau signe, puisque les huiles sont contenues dans une unique jarre. Enfin, il y a la jarre pour l'huile des malades, la jarre pour l'huile des catéchumènes, et puis la jarre du Saint-Crème. Et à la fin de la messe chrismale, cette huile va se répandre dans tout le diocèse. Là encore,
partagé.
Il y a le signe de l'unité.
Oui, c'est ça, oui.
Hein, et qu'il faut voir. Alors, parfois, ça se fait dans un joyeux bazar, parce qu'à la fin de la messe chrismale, tous les prêtres, mais aussi des laïcs viennent, des laïcs appelés par leur curé pour récupérer les huiles pour leur paroisse. Mais ce geste est très, très beau, parce qu'il faut y voir le signe de l'unité. Hein. C'est pas chaque prêtre qui consacre selon ses besoins. Non, non. C'est dans l'église cathédrale, l'église mère, et ça nous dit aussi quelque chose du mystère de l'église, de l'unité.
Pour terminer par Arnaud Franc, il y a le formulaire de messe avec ses oraisons, la prière d'ouverture et la prière finale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Oui, peut-être qu'on peut alors regarder la prière d'ouverture et la prière finale qui nous redisent bien le sens de cette messe. La prière d'ouverture dit ceci: Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique et tu l'as établi Christ et Seigneur. Donc là, on voit bien la Trinité, hein, ouais. Dieu le Père, l'Esprit et le Fils. puisque tu nous fais participer à sa consécration, hein, le verbe participer, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. C'est une parfaite expression qui dit ce qu'est le sacerdoce baptismal. Parfois, on cherche des expressions. Allons regarder dans la liturgie voilà, et la messe chrismale. Oui. Nous sommes les témoins de la rédemption dans le Christ. Et puis, la prière de fin est absolument magnifique. Et elles nous disent souvent, ces prières de fin, ce à quoi nous amène la liturgie. Et ce qu'elle nous a permis de vivre aussi. Voici ce qu'elle dit. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne à ceux que tu as fortifiés par tes sacrements d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ.
Et là, on retrouve ce parfum.
Et là, on retrouve ce parfum. On retrouve finalement notre mission de chrétien avec les malades, avec les catéchumènes. Et nous, les prêtres, nous sommes au service de cette consécration, hein, voilà pourquoi il y a aussi cette dimension qui peut-être se retrouve davantage dans la préface, hein, la préface met davantage l'accent sur le sacerdoce baptismal, mais encore une fois dans l'unique sacerdoce qui demeure dans l'Église. Mais j'aime beaucoup cette expression finale parce que nous les chrétiens, notre mission finalement, c'est de répandre la bonne odeur du Christ par notre charité. Parfois, je dis au baptême que un chrétien pue lorsque il n'aime pas, lorsqu'il ne se laisse pas aimer, lorsqu'il ne vit pas de tout ce qui est renfermé dans la grâce de son baptême, nous sommes appelés à répandre la bonne odeur du Christ. Voilà. Et le Christ, dans sa mort et sa résurrection, vient répandre dans le monde et nous en sommes, nous, les témoins.
Merci beaucoup, Père Arnaud Franc. Je rappelle que vous êtes le responsable de la commission de la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Toulouse et vicaire de l'ensemble paroissial Notre-Dame d'Autun. Vous nous avez guidés aujourd'hui dans la compréhension de la messe chrismale. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.